Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter RFI. Il est 5h ici à Paris, 2h de moins en temps universel.
Léa Boutin-Rivière.
1 700 000 morts et un traumatisme toujours vivace un demi-siècle plus tard. Il y a 50 ans aujourd'hui, les Khmers Rouges prenaient le pouvoir au Cambodge et ouvraient une des périodes les plus sanglantes du pays. Vous entendrez un témoignage rare dès le début de ce journal, celui de l'un des 12 survivants de la prison S21, véritable centre de torture. Il y a 200 ans, en France, la France faisait payer à Haïti le prix de son indépendance, l'équivalent de plusieurs centaines de millions d'euros actuels, une dette dont Haïti fait encore les frais aujourd'hui et qui reste un poids pour la population. Dans ce journal également, le chef de la diplomatie nigériane de retour au pays après une visite éclair à Niamey et sur l'île de la Réunion, l'inquiétude face à la propagation du chikungunya. C'était donc il y a 50 ans, jour pour jour, après des mois de combats, des semaines de sièges et de bombardements constants. Phnom Penh, la capitale du Cambodge, tombait aux mains des Khmers Rouges. Ces derniers conserveront la mainmise sur la ville pendant près de 4 ans, 4 années sous la férule de Pol Pot et de Lang Kar, le parti communiste du dictateur. 4 années pendant lesquelles 1 700 000 personnes perdront la vie, sans compter celles et ceux emprisonnés dans des lieux qui n'avaient de prison que le nom, qui étaient en réalité des centres de torture comme la prison S21. 20 000 personnes sont passées par ces couloirs, seules 12 d'entre elles en sont ressorties vivantes. Chan Lida de la rédaction Khmer de RFI à Phnom Penh a rencontré l'un de ces rescapés. Récit signé Daniel Thuy et Nicolas Roca.
À 55 ans, Nang Chapal est de retour dans les couloirs de S21, ce symbole de l'horreur du régime qu'il a découvert à 8 ans avec sa mère et son frère.
Lorsque le portail s'est ouvert, 4 ou 5 hommes armés ont crié et ordonné à ma mère de descendre du camion. Comme elle était très malade, elle ne pouvait pas marcher vite. Alors ils l'ont poussée par terre. J'étais terrorisé. Ils l'ont envoyée dans une pièce où ils l'ont prise en photo et l'ont interrogée. Ma mère ne comprenait pas bien toutes les questions. Alors ils l'ont torturée, lui ont donné des coups de pied sous mes yeux. J'ai couru vers elle et je l'ai prise dans mes bras pour la protéger. Alors moi aussi, ils m'ont donné des coups de pied dans le dos. 5 ou 6 ans plus tard, dans l'orphelinat où j'étais, mon dos me faisait encore mal.
Sorti orphelin et rachitique, Nang Chapal est l'un des rares rescapés à avoir porté plainte et témoigné en 2009 dans le procès contre les anciens cadres du régime.
Même si je n'étais pas entièrement satisfait du résultat du procès, ce jugement a certainement permis à ma mère de reposer en paix. Son âme a pu quitter ce lieu et se réincarner dans une nouvelle vie, selon la croyance bouddhiste. Il fallait que la justice soit rendue à ma mère, quel que soit le degré de satisfaction. Sinon, son âme serait restée prisonnière de ce lieu. Depuis la fenêtre de sa cellule, elle continuerait d'attendre pour que j'obtienne justice pour elle.
Un demi-siècle plus tard, impossible d'effacer ces traumatismes de sa mémoire.
Et les 50 ans de la prise de Phnom Penh, on y revient au cours de la matinale avec notre invité, le réalisateur Riti Pan. Rendez-vous à 6h20, temps universel, sur notre antenne. Quel est le prix de la liberté? À cette question d'ordre philosophique, Haïti a appris à ses dépens qu'il y avait une réponse bien concrète. Il y a 200 ans, le pays, fraîchement indépendant, a accepté de payer 150 millions de francs or d'indemnité aux anciens propriétaires terriens et anciens maîtres d'esclaves, l'équivalent de plusieurs centaines de millions d'euros. Une concession cédée sous la menace des canons français. 2 siècles plus tard, le poids de cette dette pèse toujours sur les épaules de la population, économiquement et politiquement. La blessure reste vive, y compris pour les plus jeunes générations. Alors Peterson Luxama, des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent en Haïti avec une demande claire, la restitution de cette somme.
Dans la capitale d'Haïti, la question de la rançon de l'indépendance refait surface. Étudiants, chercheurs, citoyens, tous réclament réparation et restitution, à l'image de Sephora, étudiante à l'Université d'État d'Haïti.
Comme tu peux le constater, c'est un nouvel élan qui semble se produire, que ce soit en Haïti ou à l'étranger. On aborde davantage cette question ces derniers temps, ce qui est normal, car c'est une grande injustice que la France nous a faite. Mais il ne suffit pas d'en parler, il faut aussi des actions concrètes pour qu'Haïti obtienne réparation et restitution.
Pendant plus d'un siècle, Haïti a payé à la France une somme colossale pour obtenir sa reconnaissance comme nation libre. Une aberration, dénonce Richcord, jeune journaliste rencontré à Pétionville.
C'est véritablement une aberration qu'un peuple ait eu à payer pour une indépendance qu'il avait déjà conquise. conquise. C'est ce qui explique la situation que nous vivons aujourd'hui. Il y a eu tant de sang versé, tant de sacrifices consentis pour que cette nation puisse devenir libre.
De son côté, Georges Eddy Lucien, professeur d'histoire et membre du collectif contre la rançon de 1825, dénonce une injustice historique. Il estime que la réparation de cette injustice morale et historique est une nécessité.
Nous réclamons la restitution de la dette parce que nous avons été rançonnés. Nous exigeons le paiement de cette rançon afin d'éviter que d'autres générations, en Haïti ou ailleurs, ne continuent à être rançonnées par une grande puissance. Il est temps d'y mettre fin en créant un précédent.
Mais la France est-elle prête à aller jusque-là? Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Et côté français, justement, le président Emmanuel Macron devrait aujourd'hui reconnaître une forme d'injustice initiale. Le chef d'État compte aussi lancer un travail de mémoire, concrètement des évaluations d'historiens afin de déterminer s'il y aura ou non réparation. D'argent, il est aussi beaucoup question ces dernières semaines au sein de l'administration Trump en raison des surtaxes douanières agitées et appliquées à tout va par le nouveau gouvernement comme moyen de pression. Une délégation japonaise était hier à Washington pour discuter de ce point puisque, comme de nombreux autres pays, Tokyo est visé par les droits de douane de 25% dans plusieurs secteurs. Fidèle à ses superlatifs habituels, Donald Trump a salué le grand honneur de rencontrer la délégation japonaise, salué aussi des progrès importants. L'exécutif japonais juge, lui, que les négociations ne seront pas faciles. Vous écoutez RFI, il est 4h06 à Niamey, où se trouvait hier le ministre des Affaires étrangères nigérian. C'est la première fois depuis le coup d'État de juillet 2023 et la chute de Mohamed Bazoum qu'un membre de l'exécutif fait le déplacement. Au cours de cette visite express, Youssouf Maïtama Tougar a été reçu par son homologue nigérien Bakary Yahou Sangaré pour une réunion à huis clos entre les deux délégations, couronnée par un communiqué commun en fin de journée. Après 2 ans de méfiance prudente, les deux pays semblent prêts à réchauffer leurs relations, Magali Lagrange.
Relations chaleureuses, amicales, de fraternité et d'amitié, selon le communiqué commun, c'est dans la ferveur et l'enthousiasme que le ministre nigérian des Affaires étrangères a été accueilli à Niamey. Un ton qui contraste avec la méfiance ouvertement affichée par les autorités nigériennes envers le grand voisin du Sud depuis le coup d'État. Contact renoué, les deux pays qui partagent 1500 km de frontières listent désormais les nombreux domaines dans lesquels ils veulent resserrer leurs liens. Économie et sécurité notamment, même si le Niger a quitté la CDAO et la force multinationale mixte active dans la région du lac Tchad. Redynamisation de la commission mixte nigéro-nigériane de coopération, questions énergétiques, construction du gazoduc transsaharien, Niamey et Abuja veulent aussi unir leurs forces pour combattre le terrorisme. Les deux ministres se donnent rendez-vous au Nigeria pour une prochaine visite dont la date n'est pas encore fixée. Le chef de la diplomatie nigériane n'a en revanche pas vu le général Abdourahman Chiani à qui il apportait un message du président Bola Tinubu, message qu'il a finalement transmis au premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine-Zen.
Magali Lagrange. Des dizaines de manifestants hier à Moroni, aux Comores et une cible en ligne de mire, le gouvernement français. Les protestataires s'insurgent d'une possible reconnaissance du voisin mahorais comme entité française au sein de la commission de l'océan Indien et le timing de ce rassemblement ne doit rien au hasard puisque le président Emmanuel Macron sera dans la région à partir de lundi à Mayotte d'abord, mais aussi à Maurice, Madagascar, puis à La Réunion. La Réunion, où Santé publique France s'inquiète. Depuis le début de l'année, 6 personnes sont mortes des suites du chikungunya. On compte aussi plus de 30 000 cas. Amélie Beaucourt, ces chiffres sont probablement sous-estimés.
Les chiffres du dernier bulletin épidémiologique de Santé publique France sont à prendre avec précaution. Au 6 avril 2025 et depuis le début de l'année, au moins 6 personnes âgées sont décédées. Mais l'actualisation des données, dans une semaine, pourrait révéler davantage de décès car la publication du bulletin se fait avec 10 jours de décalage. Même chose pour le nombre de cas enregistrés, 33 000 officiellement entre le 1er janvier et la première semaine d'avril. Mais comme le souligne l'Agence régionale de santé, ces chiffres sont sûrement sous-évalués, notamment parce que les médecins ne prescrivent pas systématiquement d'analyses sérologiques pour éviter de saturer les laboratoires. La lutte contre le chikungunya passe également par la démoustication. Le préfet de La Réunion a annoncé 400 contrats aidés supplémentaires pour renforcer les opérations de nettoyage de l'île. La campagne de vaccination, elle, piétine. Sur les 40 000 doses disponibles, seules 2500 auraient été injectées, d'après le directeur de l'Agence régionale de santé. Jusque-là destinée aux personnes de plus de 65 ans, elle sera élargie à tous les majeurs qui présentent des risques de comorbidité.
Amélie Beaucourt, il est 5h10 ici à Paris. C'est la fin de cette édition.